Reconnu centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Instant Europe, votre rendez-vous radiophonique proposé avec la Maison de l'Europe en Mayenne. Aujourd'hui dans cette émission, nous nous intéresserons à un enjeu devenu central dans nos vies quotidiennes, la cybersécurité. Alors que les usages numériques se multiplient, les risques se diversifient et touchent aussi bien les particuliers que les entreprises et les collectivités, l'Union européenne a fait de cette question une priorité avec des stratégies communes, des agences dédiées et des outils de protection pour les citoyens. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons Élise Sabourin, intervenante du réseau Team Europe Direct et ancienne collaboratrice de la Commission européenne. Elle intervient régulièrement auprès du grand public pour expliquer les politiques européennes et rendre leurs enjeux peut-être plus lisibles. Avec elle, nous allons faire donc le point sur ce que recouvre réellement la cybersécurité, sur ce que l'Europe met en place et sur les gestes essentiels que chacun peut adopter. Déjà, bonjour Élise et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre rôle au sein du réseau Team Europe Direct et qu'est-ce que c'est que ce réseau d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. Alors la Team Europe Direct, en fait, c'est ce qui correspond au réseau des conférenciers que la Commission européenne sollicite en fait pour animer des conférences, des panels ou même des événements. Je pense notamment à la Fête de l'Europe autour du 9 mai, mais en fait tout le mois de mai pour parler d'Europe à travers différents événements, souvent tournés aussi vers la jeunesse. Et donc en fait, nous sommes un petit pôle comme ça d'experts, souvent très familiers des questions européennes puisqu'on a plutôt des parcours au sein des institutions européennes. Et aujourd'hui, on est plutôt disponible pour en parler comme ça, de façon bénévole et volontaire. Et donc, la Commission européenne nous sollicite pour venir animer des discussions sur les sujets européens.
Justement, aujourd'hui, après avoir travaillé pour la Commission européenne, qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle de passeuse, en quelque sorte ? Qu'est-ce qui compte pour vous ?
Oui, c'est exactement cette idée-là de passer, de transmettre, de faire aussi comprendre de façon beaucoup plus proche et beaucoup plus concrète ce que sont en fait les actions de l'Union européenne dans nos vies, sur nos territoires, dans notre quotidien. C'est pas toujours évident de savoir où est l'Europe. Voilà, quand on n'est pas tout simplement à Bruxelles, alors qu'en fait, à Bruxelles, tout le monde travaille en se disant mais en fait, quelles actions on doit mener dans les pays européens, dans les États membres de l'Union européenne à 27. Et c'est ça ce qui guide en fait l'action dans les institutions européennes. Mais on s'aperçoit quand on arrive sur le terrain, on se dit mince, ça semblait si évident et en fait non, les gens continuent à poser des questions qui paraissent très lointaines. Donc il faut rapprocher l'Europe des citoyens européens, des citoyennes qui ont aussi beaucoup d'initiatives à proposer et c'est effectivement en fait l'idée de transmettre et de aussi recevoir ce que les citoyens ont comme proposition.
Pourquoi avoir choisi de parler aujourd'hui, de venir parler de cybersécurité dans un cadre citoyen ici en Mayenne avec la Maison de l'Europe ?
Oui, alors ça c'est un sujet, la cybersécurité, qui je pense aujourd'hui n'est plus du tout quelque chose qui paraît loin. Pour le coup, on l'a tous, je dirais, dans les mains, à chaque fois, dans la journée, plusieurs fois. C'est notre téléphone, tout simplement. Donc, ça devient un sujet sur lequel, en fait, tous les citoyens et citoyennes sont amenés à un moment donné prendre conscience qu'ils sont responsables d'une certaine manière, des actes de protection qu'ils vont mener eux-mêmes. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des règles et des réglementations qui soient mises en place pour qu'il y ait un cadre sur lequel les institutions, la gouvernance puissent s'appuyer pour les protéger. Mais c'est vrai que la cybersécurité, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on pensait que c'était quelque chose qui avait à faire avec les ingénieurs informaticiens très loin, dans des sous-sols avec des machines gigantesques qu'on ne savait pas trop comment faire fonctionner. En fait, non. Ce que je disais, c'est vraiment qu'on l'a nous-mêmes chaque jour entre les mains. C'est souvent le téléphone portable, ça peut être aussi d'autres appareils connectés. Les montres connectées aujourd'hui, c'est typiquement le nouveau gadget technologique qui fait qu'on est tout le temps confronté à nos données personnelles qui transitent. Mais ça peut être aussi des appareils domestiques à la maison qui sont aussi ultra connectés. La Wi-Fi 5G et voire plus qui se promènent partout dans notre environnement dès qu'on se déplace. Voilà, et tout ça en fait fait que la cybersécurité est maintenant devenue une des top priorités des institutions européennes pour ne pas se laisser déborder.
Et alors, si on devait redéfinir précisément ce mot, puisque on comprend que les enjeux se trouvent partout autour de nous, nos téléphones juste à côté, les ordinateurs qui nous entourent, les montres connectées, mais ce terme de cybersécurité, qu'est-ce qu'il signifie ? Puisque on imagine des hackers, des mots de passe, des films d'espionnage, mais comment vous définiriez ce mot précisément ?
Oui, la cybersécurité, c'est avant tout comment on va mettre en place des barrières pour empêcher des actes de malveillance. Voilà, sécurité voulant dire la sécurité sur le réseau, sur le net, sur le cyberespace, c'est-à-dire ce qui n'est pas matérialisé mais qui existe dans tous nos échanges de data et de données. Ça peut être des données à niveau professionnel, mais comme je disais aussi en intro, ça peut être des données personnelles. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'il faut aussi savoir appliquer des réglementations dans un espace professionnel ou dans ce qui correspond à la sphère privée. La cybersécurité, c'est donc en fait ce qu'on va placer comme garde-fou, comme barrière, comme contrôle, comme certification pour des organismes qui vont manipuler ces datas dans un cadre professionnel ou personnel et pour prévenir en fait des actes de malveillance. Et vous avez cité le mot de hacker, c'est vrai qu'on a plutôt une image négative du hacker. Bon, on peut trouver des hackers positifs, on ne va pas dire le contraire, mais ils sont effectivement en fait des profils qui vont agir sur tous les flux d'informations et pouvoir, malheureusement, si c'est malveillant, les bloquer, les manipuler, demander des rançons. Hein. Le premier mot qui nous vient, c'est le ransomware, en fait. Hein. C'est l'hameçonnage pour demander « Ah, on a vos données, donnez-nous une rançon pour les récupérer ». Ça, c'est le premier niveau, en fait, de ce qu'on imagine en termes de cybermenace. Mais ça peut être aussi tout simplement bloquer un accès. Ça, c'est très facile à faire. Finalement, quand on est hacker, on surcharge un flux, un tuyau, et ça empêche la personne de se connecter parce que, en fait, le tuyau est rempli, elle n'accède plus sur le site qu'elle devrait ouvrir. Voilà, c'est des exemples comme cela. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, cybersécurité, c'est quand même une affaire d'intelligence artificielle. Voilà, c'était pas encore le cas, peut-être aussi évident il y a une dizaine d'années, mais là, on sait tous que l'intelligence artificielle s'est introduite dans à peu près toutes les composantes de l'Internet, des données mobiles, etc., des algorithmes. Et donc, en fait, il y a une partie de la cybersécurité qui prend aujourd'hui conscience qu'il faut aussi une réglementation de l'IA pour arriver à prévenir un niveau de cybersécurité.
Est-ce qu'on peut dire que la cybersécurité est devenue une question du quotidien presque aussi importante que notre sécurité physique finalement ?
Oui. Je pense que c'est vraiment le cas. Il ne faut pas dissocier les deux. On a en effet toute une part de nos activités sociales qui se trouvent dans des réseaux dématérialisés. Et donc, en fait, notre environnement numérique se confronte à notre environnement physique de façon très directe et intime parfois. Donc en fait, oui, la cybersécurité, notre sécurité dans le monde numérique est aussi importante puisque notre identité est aussi numérique aujourd'hui. Ça, c'est au niveau des institutions même. Hein. C'est-à-dire, il y a tout un tas maintenant d'interfaces qui se font en ligne. C'est beaucoup plus difficile finalement d'aller y accéder en se déplaçant physiquement pour trouver l'interlocuteur. Et par contre, le service en ligne, on nous le propose en premier. Donc en fait, effectivement, cybersécurité, c'est tout aussi important que sécurité physique.
Et alors, pour l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, le citoyen, si on lui parle aujourd'hui d'un cyber-risque, concrètement, dans sa vie, ça se trouve où ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, historiquement, je dirais, en tout cas, on est tous maintenant, depuis au moins 20-25 ans, avec des boîtes email, nos messageries email sont rentrées dans le quotidien. Peut-être au départ, on s'en servait plus comme d'une messagerie personnelle en échangeant énormément de discussions, de chats avec des amis. Alors voilà, donc en fait, notre environnement social, familial, amical se trouvait dans cette façon de dialoguer avec ces nouvelles messageries boîte email. Aujourd'hui, je dirais que la pratique fait qu'on est plutôt maintenant avec des boîtes mail qui nous servent à organiser notre vie, à avoir des réunions avec des rendez-vous pour telle activité sociale, tel club, tel rendez-vous au coiffeur, je ne sais quoi. Mais bon, en fait, ça fait partie de toutes les informations qui sont notre quotidien, etc. Donc la boîte mail, c'est évidemment l'endroit où on va trouver toutes les infos qui intéressent quelqu'un de malveillant, qui va vouloir faire du phishing, du hameçonnage, c'est-à-dire envoyer un mail qui ressemble à un mail qu'on connaît. Il y a presque tout qui est exact, sauf peut-être une virgule qui est placée autrement et qui va emmener, en fait, à rebondir, si on clique sur le lien, à rebondir vers un site qui n'est pas le site réel et qui, là, en fait, va faire le phishing et capter déjà toutes vos infos. Parce que ça, c'est très facile. Donc, avec des logiciels malware qui vont s'infiltrer dans... En plus, si vous le faites avec votre ordinateur personnel, bon, bah voilà, si vous avez mis à jour encore récemment votre sécurité informatique, peut-être ça va provoquer une réaction et votre ordinateur va se couper rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes à peu près garanti dans ce cas-là d'avoir cliqué sur un lien qui va, en quelques heures, mettre à mal tout votre système informatique. Si c'est dans le cadre d'une entreprise privée, si c'est dans votre cadre de vie professionnelle que ça se déroule, ça peut être un très fort préjudice sur votre société là où vous travaillez. Et ça va impliquer beaucoup d'autres conséquences, puisque en fait, une activité économique peut en être complètement bloquée parce que vous aurez cliqué sur un email que vous aurez reçu comme, par exemple, un client qui vous contacte pour vous demander un devis. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Il attend pas un devis de votre part. Il attend tout simplement d'aller pêcher toutes les datas de la société dans laquelle vous travaillez.
Oui, j'allais demander quelles sont les erreurs les plus fréquentes que l'on commet sans s'en rendre compte. C'est via le mail finalement, ou ça se passe aussi à d'autres endroits? Plus fréquentes aujourd'hui.
Oui, alors bon, c'est vrai que je pense en priorité au mail parce que, comme je disais, c'est aussi l'outil numérique qu'on a dans nos vies depuis le plus longtemps, mais le téléphone mobile, évidemment, en fait, vous avez maintenant tout un tas d'applications mobiles, en fait, qui sont développées et effectivement, il y a des chats, il y a aussi des applications qui sont un peu ludiques, où on va pouvoir se présenter avec des pseudos. Bon, bah, rien de tel pour quelqu'un d'un peu mal intentionné de se cacher derrière un pseudo pour aller rentrer dans tous les salons de discussion d'un espace chat et puis voilà, de se débrouiller pour... En fait, les personnes qui infiltrent ces applications sont à la recherche d'informations sur des individus pour pouvoir ensuite soit vous couper vos accès et vous demander une rançon, soit venir perturber complètement une activité et détourner l'identité de telle, par exemple, dans la société civile aussi, hein, de telle association qui, par exemple, se préoccupe, moi je ne sais pas, de sensibiliser la jeunesse à l'importance de la prévention, enfin voilà, des sujets importants où on va aller rencontrer des personnes chaque semaine, des jeunes un peu fragiles, peut-être dans des contextes sociaux difficiles, etc. Bon, ça intéresse pour on ne sait quelle raison un groupe caché dans le numérique, dans le dark net, et qui va se dire, ah bah tiens, avec cette association qui fait des actions vers ces groupes sociaux, etc., on peut peut-être aller chercher telle rançon ou je ne sais quoi. Eh bien, en fait, sous un pseudo, ils vont continuer à développer leur propre activité, et puis le moment venu, en fait, hop, ils prendront toutes les infos qui les intéressent. Et l'association, elle sera dans un grave problème puisqu'elle aura plus son identité propre en fait et on lui aura aussi rendu le déni d'identité, c'est-à-dire qu'en fait elle aura perdu sa crédibilité par rapport par exemple aux collectivités territoriales qui la soutiennent, aux aides ou aux subventions qu'elle aura eues, parce que en l'espace de quelques jours tout son environnement numérique aura été hacké et par là même, en fait, son image et sa crédibilité vis-à-vis des personnes physiques auprès desquelles elle intervient ne pourront plus lui faire confiance.
Et est-ce qu'on sait mesurer l'ampleur du phénomène en France, en Europe, par exemple, combien d'attaques ou de tentatives sont recensées chaque jour en Europe? Est-ce qu'on a ces chiffres-là?
Oui, on les a. Alors, je ne suis pas sûre de les avoir complètement en tête, mais on les a parce qu'en fait, c'est des données qui sont suivies de très, très, très près. Pour l'Europe, j'ai un chiffre qui me vient, c'est celui sur une année en 2024, puisque bon, 2025 n'étant pas terminé, on n'a pas ces chiffres pour l'année. Mais 2024, on était sur l'Europe avec un chiffre global à plus de 11 000 cyberattaques, ce qui est gigantesque en fait. Hein, ça veut dire que c'est plus que des centaines par jour qui se déroulent en fait au quotidien. Évidemment, on a aussi en tête qu'il y a certains secteurs qui sont plus... des cibles, notamment, je parlais des administrations publiques, parce que effectivement, les administrations contiennent un grand nombre de données qui concernent des citoyens, des individus qui vont pouvoir ensuite être des cibles et se démultiplier en fait. Hein. Donc l'administration publique et aussi le secteur des transports. Et là, on a tous en tête parfois des moments où on nous dit il y a une défaillance sur les systèmes d'affichage des vols aériens. On a un aéroport qui est confronté à des écrans qui disparaissent pour afficher les plannings de vol. Bah, ça, c'est typique d'une cyberattaque. Une compagnie aérienne se retrouve à devoir annuler pendant plus que 24 heures tous les vols pour garantir le fait qu'elle ne va pas aller emmener les passagers au mauvais endroit ou tout simplement risquer beaucoup plus. Voilà, donc le domaine des transports est un domaine très sensible aussi. Évidemment, il y a d'autres domaines qu'on peut imaginer, typiquement la santé, puisqu'il y a beaucoup de données personnelles qui sont très intéressantes dans ce secteur. Mais je dirais que, comme on le sait, aussi, c'est très, très bien protégé. Hein. Voilà, il y a des plans, effectivement, qui sont construits exprès pour en fait, les infrastructures de santé, la recherche biomédicale ou la recherche, tout simplement, l'innovation, les nouvelles technologies, ces entreprises qui travaillent sur des secteurs très sensibles, évidemment, bénéficient de protections qu'ils ont adaptées aussi aux data qu'ils manipulent. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, les administrations publiques sont souvent celles qui sont les plus facilement ciblé.
Entre nos téléphones, nos objets connectés, nos comptes en ligne et tout ce qu'on vient de citer, est-ce qu'il est devenu impossible de nous protéger entièrement ?
C'est très difficile. Oui, entièrement est un mot compliqué en fait. Mais se protéger, oui, de toute façon, on peut quand même beaucoup diminuer le risque. Et c'est ce que je disais aussi en intro. Ça passe aussi par la responsabilité individuelle, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi et se dire en fait c'est bon, je suis sur Internet, donc tout va bien. Non, en fait, c'est aussi les comportements responsables. C'est se dire, est-ce que je mets... toujours le même mot de passe dans tous mes logins. Est-ce que je le change jamais parce qu'en fait, c'est plus facile pour m'en souvenir. Oui, en fait, ça passe aussi de cette façon. Donc, on peut certainement quand même diminuer énormément les failles et les risques au niveau individuel qu'on prend, aussi au niveau de son entourage proche. C'est-à-dire que quand même, si on est une famille, on peut aussi être très vigilant avec ce qu'on donne, par exemple, à nos ados, à nos enfants. Les sensibiliser, c'est quand même le premier pas. Hein. Je pense qu'à l'école, il y a maintenant aussi des classes qui sont tournées vers ces objectifs-là. Je sais qu'on apprend aux enfants à découvrir le codage, mais en parallèle, on apprend, j'espère aussi, à être très sensibilisé au fait que passer 4 heures sur son téléphone, ça donne à plein de gens l'opportunité d'aller comprendre ce qui nous intéresse, quel est notre sport favori, là où on va cliquer pour acheter la place de ciné que chaque semaine on aime aller avec les amis, etc. Donc voilà, en fait, on laisse des traces dans toutes nos activités numériques. Il faut absolument que les enfants soient conscients de ce qu'ils ont aussi entre les mains.
On va marquer une courte pause musicale. On vient de poser les bases ensemble, Élise, de ce qu'on appelle la cybersécurité, les risques du quotidien, les réflexes essentiels, les premiers réflexes essentiels pour se protéger. On se retrouve juste après pour voir comment l'Union européenne organise cette protection au niveau collectif. Mais avant ça, on va écouter MC Solar qui a justement fait une chanson qui s'appelle IA. On se retrouve juste après.
Mais que se passerait-il si une IA devenait totalement autonome? Que des idées et une volonté propre s'éveillaient en elle.
Suivant. Matricule numéro 453-298. Vous comparaissez devant l'intelligence artificielle suprême aujourd'hui pour le crime que vous allez commettre selon les algorithmes. Asseyez-vous et...
Bonne chance.
C'est un deepfake, c'est pas vrai, c'est faux, ce sont des boniments. Please analyser et vérifier tous les éléments. Sachez que dans cette ville, il n'y a pas ce genre de monument. Prenez le temps, je vous le demande solennellement.
Mais non, je n'ai pas pris part à ces événements. Oui, je peux le dire, je n'étais pas dans ce département. J'ai passé la nuit tranquillement dans mon appartement.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Je me suis levé à 8h pour un retour à 11h. Arrive à 9h au théâtre de 10h. À 13h, j'apprends que je suis dans le viseur. Photos sur écran, iPhone et téléviseur. Jugé par le tribunal IA, je jure de dire la vérité qu'il n'y aura pas de parjure. Qu'il y aura non-lieu dans le présent et le futur.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Check, check, one, two, microphone checké. On se croit chez Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central, un collecteur de data
qui trie le bien et le mal.
Check, check, 1-2, microphone checké. Patata la Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Le justiciable n'a plus que sa salive. Pris dans la glace algorithmique de la justice prédictive. Rien n'a eu lieu, tout est créé virtuellement.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Une balance tient le glaive qui mène au glaive à la balance. L'IA m'a haï, trahi au nom de la science. S'il n'y a pas de scénar, pas de réel, est-ce que cela est réel?
Oui, tout ceci est réel.
Check, check, one, two, microphone checké. On se croit chez Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central, un collecteur de data
qui trie le bien et le mal.
Check, check, 1-2, microphone checké. Patata la Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central, un collecteur de data
qui fait le mal et le mal.
Vous écoutez toujours Instant Europe en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne. Avant la pause, nous avons posé les bases de ce qu'est la cybersécurité dans la vie quotidienne, les principaux risques, les erreurs fréquentes et les premiers réflexes à adopter. On continue cet échange avec Élise Sabourin, intervenante du réseau Team Europe Direct et ancienne collaboratrice de la Commission européenne qui nous accompagne aujourd'hui pour comprendre ces enjeux. Alors dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à l'action de l'Union européenne, ses agences, ses stratégies et les grandes directives qui structurent notre protection numérique. Élise, j'ai envie de vous demander comment l'Europe s'organise-t-elle justement face à ces menaces? Est-ce qu'il y a une stratégie commune entre les pays membres?
Oui. Alors l'Union européenne a cette grande qualité de toujours chercher la coordination. Donc tous les mécanismes vont d'abord être mis en place pour coordonner à 27. Et effectivement, pour ça, il faut une stratégie. Donc en effet, en 2019-2020, il y a eu une première stratégie sur la cybersécurité, le Cyber Security Act, qui a été adopté, donc proposé par la Commission européenne et adopté par le Parlement européen et puis le Conseil des 27 États membres. Cette stratégie, en fait, elle renforce à la fois donc, la résilience, en fait, des États membres face aux cybermenaces, c'est-à-dire en fait mettre en place un cadre commun de certification de qu'est-ce que sont les différents niveaux de cyberattaques possibles et quel plan en découle pour y pallier. C'est effectivement aussi des plans de coordination pour répondre plus rapidement aux incidents qui sont notifiés, puisqu'il y a une obligation, en fait, dès qu'un incident est identifié, de le signaler le plus vite vers le mécanisme de coordination à l'échelle européenne. Et c'est aussi un volet important, c'est de rendre le cyberespace quand même le plus ouvert et le plus compétitif. Je ne vous cache pas que dans la thématique cybersécurité, il y a quand même aussi pour l'Union européenne un enjeu d'être compétitif sur la scène mondiale.
En faisant des recherches, j'ai justement découvert l'Agence européenne de cybersécurité, ENISA, je ne sais pas si...
Oui.
Ou ENISA. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement ?
Oui, alors l'ENISA, donc effectivement, c'est l'organisme qui est issu de cette stratégie Cybersécurité Act de 2019. Elle a un mandat qui est pérenne. Elle est vraiment installée maintenant pour justement renforcer ce côté coordination vers les États membres. Elle est effectivement mandatée pour recenser, tout d'abord, pour en fait identifier les cyberattaques, ensuite les renforcer dans les réponses qui sont proposées. C'est-à-dire qu'un État membre qui a par exemple beaucoup plus de capacités en réponse à une cyberattaque peut venir aider un autre État membre. Il y a une solidarité européenne qui, effectivement, à travers l'agence, à travers les experts, en fait, l'agence européenne ENISA, elle est composée d'experts, je dirais même des hackers professionnels, mais qui sont passés du côté de la protection. En fait, c'est des gens qui sont hyper compétents et qui ont probablement eu des expériences très variées avant et qui savent comment, au niveau institutionnel, on peut déclencher vraiment des réponses très efficaces, rapides, contre une cyberattaque. C'est ça. C'est pas de se dire, nous, on est technocrates qui réfléchissons au sujet de façon conceptuelle. Non, en fait, l'ENISA, c'est avant tout des experts hackers qui sont là pour se confronter aux cyberattaques et pouvoir y répondre de façon efficace. Et donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait des cultures l'espace cyber différentes selon les États membres, peut-être un peu moins, et c'est la vertu d'avoir une stratégie commune européenne, c'est d'homogénéiser aussi et d'avoir peut-être amener des pays qui étaient très en retard il y a encore une dizaine d'années à élever leur niveau pour être beaucoup plus protégés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé grâce aux mutualisations de compétences. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, on savait effectivement que l'Europe du Nord, typiquement les pays baltes, quand ils nous ont rejoints dans l'espace Schengen en 2004-2007 avec l'élargissement, les pays du Nord en fait étaient très en avance sur justement le maniement des outils dans le monde numérique. La digitalisation de leurs administrations était beaucoup plus avancée que celle des pays d'Europe du Sud à cette époque. Et en fait, ils avaient des stratégies numériques qui les prémunissaient beaucoup plus des cyberattaques pour tout un tas de raisons. Mais ils avaient développé ces compétences-là en pionnier. Et donc, c'est vrai que typiquement, avec une stratégie européenne commune, avec une agence à mandat durable qui en découle et avec une capacité à organiser la réponse coordonnée, eh bien, on a en fait élevé le niveau par le haut.
Et alors, on a parlé du Cyber Security Act. Il y a aussi la directive NIS2. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui change pour nous, ces deux là?
Oui, alors la NIS2, en fait, donc c'est une directive, donc directive voulant dire une réglementation européenne que les États membres doivent en fait traduire dans leur propre cadre législatif. Donc ça, c'est un enjeu important, puisqu'en fait, ce n'est pas l'Union européenne qui gouverne, ce sont bien en fait les États membres qui s'approprient des directives européennes et qui doivent les transcrire dans la loi pour qu'elle soit appliquée. Donc la directive NIS2, en fait, vient à la suite de la première, la NIS1, qui date, de 2016, donc un peu en pionnière. Et en fait, la NIS2 est venue après la Cyber Security Act, la cybersécurité européenne, pour effectivement, après avoir identifié dans la stratégie là où étaient encore les failles et les faiblesses, la NIS2 est venue appuyer renforcer et consolider en fait ce que les États membres doivent absolument mettre en application, notamment au niveau de la certification des organisations qui sont dans le domaine du cyber, c'est-à-dire renforcer en fait les niveaux de certification de sécurité. C'est notamment là où ça s'est joué, c'est-à-dire on s'est aperçu que peut-être il y avait encore un peu trop d'approximation dans ce qu'on appelait « oui, vous avez un certificat de cybersécurité, tout va bien ». En fait, la NIS2 a monté les exigences en fait, pour que les sociétés se mettent sur des niveaux de certification beaucoup plus hauts. Ensuite, je dirais qu'elle a aussi pris en compte ce dont on parlait un petit peu plus tôt, mais l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'Union européenne, elle est aussi confrontée à ce qu'elle fait comme acteur du monde du numérique, mais de l'intelligence artificielle. Donc en fait, il y a eu un Intelligence Act, Artificial Intelligence Act, désolée pour l'acronyme qui se renverse en anglais, mais donc l'AI Act, en fait, au niveau européen, adopté en 2024, en fait, a aussi confronté les directives dans le domaine cybersécurité pour les amener à évoluer et à prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, oui, les algorithmes déterminent aussi tout un tas de schémas pour les hackers, et donc il va falloir évidemment les intégrer dans la nouvelle législation pour ne pas garder des failles vis-à-vis les nouveaux modèles d'AI qui se déploient. Puisqu'en fait, dans les cybermenaces et les cyberattaques dont on parlait un peu plus tôt, en fait, il y a aussi tout ce dont on parle aujourd'hui qui sont les deepfakes, c'est-à-dire la façon dont on va détourner en fait une image, un son. Parce que la deepfake n'est pas seulement, par exemple, une image ou une vidéo manipulée. Ça peut être aussi tout simplement récupérer une voix et faire passer l'audio autre part. Donc, en fait, toutes ces cyberattaques sur le net, elles sont aussi maintenant manipulées avec ce qu'on appelle les deepfakes. Et pour ça, en fait, l'Union européenne a très vite compris que ça posait un énorme problème au niveau, tout simplement, elle-même, de sa propre sécurité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans toute cette cyber stratégie européenne en termes de cybersécurité, bien sûr, protéger les institutions européennes elles-mêmes. J'aurais peut-être aussi pu commencer de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a également cet enjeu de savoir comment on protège les politiques publiques qui sont, par exemple, dans le domaine, on parlait de la santé, mais c'est peut-être pas le premier exemple pour l'Europe, quoique avec le Covid, on en a beaucoup entendu parler, et la protection de la réponse Covid, évidemment, on peut imaginer que sur les cyberattaques, il y avait des vrais sujets, mais je pense également, par exemple, à tout ce qui se fait dans le domaine environnemental, les normes environnementales pour l'Union européenne qui a adopté un Green Deal, typiquement, qui aujourd'hui cadre à peu près l'essentiel de ce que l'Union européenne fait dans le domaine du climat, de l'environnement, de la transition écologique et énergétique, mais aussi de l'agroalimentaire. L'Union européenne étant quand même une puissance agricole, évidemment. Il y a un tas de données et de data qui circulent et qui guident en fait les réglementations au niveau européen. La Commission européenne doit effectivement garantir sa propre sécurité contre les cyberattaques. Ne serait-ce que... Alors, on peut être tout à fait malveillant pour du hacking, mais ne serait-ce aussi que pour garantir sa propre compétitivité. Je peux donner quand même en exemple, par exemple, le modèle chinois qui est très intéressé à savoir ce que l'Union européenne va décider dans 6 mois comme réglementation sur tel ou tel produit, par exemple agricole, pour pouvoir anticiper et attaquer sur le plan de la compétitivité et des marchés commerciaux mondiaux. Donc voilà, ce n'est pas forcément une cyberattaque pour empêcher d'avoir l'accès à son réseau informatique brutalement coupé. Ça peut être tout simplement savoir ce que font telle ou telle autre personne qui vont décider de réglementer tel secteur commercial, et ça intéresse les concurrents. Voilà.
Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique ? Est-ce que ça inclut ce que vous venez de nous dire ou est-ce que c'est encore autre chose ?
Alors oui, la souveraineté numérique, c'est encore autre chose. Tout est lié, évidemment, dans le sujet. Mais la souveraineté numérique, en fait, c'est le fait d'être propriétaire de ses data en premier. Et ça, c'est un sujet sur lequel l'Union européenne a énormément travaillé, mais avec aussi beaucoup de retard. Puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle le cloud numérique, donc le nuage numérique, la digitalisation justement de nos données et de nos espaces de réseaux qui sont mis en place pour typiquement les administrations, mais pas que, hein, les grandes entreprises, typiquement l'industrie dans des secteurs d'innovation ou technologique, a besoin de garder ses data et ses données et de pouvoir les conserver. Mais en fait, il faut être propriétaire de l'espace de stockage. Et aujourd'hui, c'est évident que ces espaces-là sont détenus non pas sur... Alors, en fait, on est dans un monde un peu virtuel, c'est-à-dire que ce n'est pas détenu sur le sol européen. En fait, les serveurs numériques, le monde digital est propriété avant tout de grandes entreprises spécialisées de ces clouds, en fait, qui sont aux États-Unis. Donc voilà, donc l'Union européenne, en fait, parfois se retrouve à être confrontée au fait que la souveraineté numérique, on l'a construite, mais jusqu'à un certain moment, on se retrouve avec des data qui ne nous appartiennent pas. Voilà.
Justement, j'allais dire, est-ce que l'Europe est aujourd'hui autonome face aux géants américains ou chinois du numérique ? Pas totalement.
Pas totalement. Elle essaye de le devenir de plus en plus et d'être un acteur crédible de ces questions-là. Mais en fait, alors je dois dire que quand même, il y a eu vraiment des décisions très fortes de l'Union européenne, notamment dans la période juste après le Covid, où en 2023-2024, la Commission européenne a fait adopter en fait le Digital Service Act et le Digital Market Act. Ce sont deux textes prédominants pour nous, citoyens européens. Sur cette base-là, nous pouvons, même s'il nous arrive quelque chose, au moins pouvoir se protéger a posteriori, je dirais. C'est-à-dire dire, non, là, on m'a clairement volé mes datas et je porte plainte, quoi. En gros, c'est un peu ça. Parce que, en fait, les grandes plateformes numériques, pour tout citoyen lambda, pour parler clair, par exemple, Meta, propriétaire de Instagram, WhatsApp, Facebook, en fait, a accès quasiment à l'étendue de ce qu'on fait comme loisirs, activités sociales, carnet d'adresses, etc. Nos photos, parce qu'on aime les partager, etc. Et en fait, grâce au digital, au DMA et au DSA, la Commission européenne met en fait tout un tas de garde-fous qui font que, à la fois sur un côté, prémunir la concurrence et ne pas laisser typiquement une société comme Meta être en situation de monopole. En fait, c'est casser sa situation de monopole, la mettre en concurrence et garantir aux consommateurs européens d'avoir le choix. Ça, déjà, c'est très important parce qu'en fait, avant ces textes-là, ça semblait évident qu'il fallait avoir ces textes, mais on ne les avait pas. Donc, le DMA, c'est très important parce que ça garantit que dans l'espace européen, en fait, la concurrence, elle est surveillée de très près. La Commission européenne, sur cette base-là, peut demander des comptes, en fait, hein, à des grandes sociétés comme Microsoft. D'ailleurs, très récemment, en fait, même cette semaine, la Commission européenne a ouvert deux enquêtes vis-à-vis Amazon et vis-à-vis Microsoft, justement pour étudier s'ils étaient réellement en situation de monopole ou de concurrence loyale. Donc le DMA qui a été adopté en 2024, en fin 2025, s'applique très concrètement sur des cas où la Commission européenne ouvre une enquête pour s'interroger sur l'état de compétition. Et le DSA, en fait, le Digital Service Act, alors lui, en fait, est plutôt dirigé pour garantir aux citoyens européens d'avoir, sur les réseaux sociaux, une modération C'est-à-dire que, en fait, ça oblige les réseaux sociaux à veiller à ne pas diffuser des fake news. Là aussi, en fait, on se dit, mais évidemment, mais en fait, c'est pas si évident si on n'a pas un cadre qui dit, oui, nous avons un Digital Service Act qui nous protège. Et ça, en fait, c'est arrivé en 2024.
Comment ces politiques européennes influencent la vie quotidienne d'un citoyen, même sans qu'il s'en rende compte, puisqu'on a vu un petit peu du point de vue du citoyen, quels sont les enjeux pour lui, qu'est-ce qui se passe du point de vue européen au sens large, mais comment ces deux se rejoignent là et comment ces politiques européennes, tout ce qu'elles sont en train de mettre en place, influencent directement la vie d'un citoyen?
Oui, alors je dirais que c'est d'abord en fait dans les choix qu'on nous donne. C'est-à-dire que typiquement, si à un moment donné la concurrence, par exemple, est ouverte pour avoir, je sais pas, tel accès à un package télévisé numérique. Bien sûr, on va se dire « Ah bah c'est super, j'ai le choix entre tel abonnement ou telle autre plateforme ». En fait, oui, l'Union européenne veille à cet état de concurrence possible entre les différents opérateurs, typiquement. Et comme maintenant, les chaînes télévisées ont quasiment toutes basculé sur du numérique, on a des packages d'accès sur l'Internet, bien sûr, ça passe effectivement par l'espace cyber et le monde digitalisé. Donc ça, c'est avant tout, je dirais, comme ça. Et c'est pas évident, effectivement, de se dire, OK, j'ai le choix entre telle plateforme numérique pour recevoir 50 chaînes ou 150, ou alors j'en veux que 4 et ça me va. Mais en fait, on a ce choix-là parce qu'il y a des réglementations européennes qui garantissent cet accès-là.
Quand on reçoit un message suspect, on a pu évoquer un petit peu, ou un lien douteux, qu'est-ce qu'on doit faire et surtout ne pas faire en tant que citoyen, puisque maintenant on sait qu'il faut s'alerter de ce type de message?
Oui, bon, alors la première chose à faire, c'est en fait, évidemment, ne pas cliquer. Mais néanmoins, ça peut aussi... Alors, ce qui est important, c'est en fait aussi de le signaler. Alors, en France, on a plusieurs organismes qui sont apparus aussi similairement à ce qu'on disait sur l'ENISA et sur la stratégie européenne en matière de cybersécurité. Évidemment, typiquement, la France a pris en compte ce que l'Union européenne demandait de faire à ses États membres, et les pays européens ont tous décliné à leur façon, dans leurs propres institutions, gouvernance et législation, la traduction de ces directives européennes dont on parlait juste avant. Et en fait, donc on a l'ANSI, qui est l'agence du numérique, en fait, qui effectivement veille à garantir que les certifications de cybersécurité sont bien appliquées, sont bien actualisées, qu'il n'y a pas de nouvelles failles qui sont identifiées, et comment on répond à une crise de cyberattaque le plus rapidement possible. Et ça peut être aussi effectivement un signalement individuel, c'est-à-dire que on peut tout simplement aller rapporter. Il y a aussi une autre agence qui s'appelle Viginum, qui coordonne au niveau interministériel, qui est très efficace et qui, je suis à peu près certaine, est régulièrement aussi en lien avec les collectivités territoriales. C'est vrai que c'est un acteur que je n'ai pas mentionné dans la première partie de notre discussion, mais en fait, les administrations publiques, mais en fait, très concrètement, les collectivités territoriales, que ce soit une mairie, une école, un établissement scolaires, en fait, sont évidemment des institutions qui vont être, ou un conseil départemental, qui vont être directement peut-être victimes d'une cyberattaque. Viginum, en fait, typiquement, est une agence interministérielle qui va récolter. Bon, ça paraît un peu le béaba, mais en fait, signaler un incident, c'est quand même le premier moyen d'être prêt pour la prochaine cyberattaque, c'est en fait, hein, tout simplement. Donc, je dirais qu'en tant que citoyen, si on n'a pas encore cliqué, mais qu'on se dit « Ouh, là, il y a un gros problème et je le sais », c'est d'aller tout de suite, en fait, soit porter plainte parce que, on a déjà été victime de la cyberattaque, soit le signaler pour que, en fait, une réponse soit faite au bon niveau.
En ce qui concerne nos données personnelles, le RGPD, dont tout le monde entend parler, c'est un texte européen qui a été une révolution finalement à ce moment-là.
Oui, alors en fait, c'est le tout premier texte quasiment, ouais. Le RGPD, donc c'est un texte qui garantit en fait la protection de nos données personnelles. Et effectivement, ça nous protège aussi vis-à-vis de tout un... Parfois, c'est pas forcément non plus absolument malveillant et hacking. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des incidents ou des accidents ou en fait des pannes. Et ça, on a tous été confrontés. Faut pas non plus monter tout en épingle, mais il peut arriver qu'il y ait des coupures d'électricité ou quoi qui arrivent et on perd ses données, etc. Bon, bref, on est tous confrontés à un moment donné à se dire comment je suis protégée face à la perte de mes données personnelles et également j'en suis le propriétaire et si je décide volontairement de ne plus les rendre disponibles parce qu'il y a 5 ans j'ai été membre de telle association et aujourd'hui je ne suis plus membre, je ne veux plus que mes données personnelles restent dans la base de données de cette association, tout simplement. Et bien en fait la RGPD me donne le cadre pour dire non, je suis propriétaire de mes données, je ne veux plus qu'elles soient à disposition du répertoire, je ne veux plus que la newsletter arrive directement alors que je ne l'ai pas demandé. Voilà, tout simplement.
On dit souvent que les jeunes sont plus à l'aise avec le numérique, mais est-ce qu'ils sont vraiment plus vigilants? Et est-ce que du côté des personnes plus âgées, il y a des moyens de transmettre ces réflexes aussi sans les effrayer?
Et oui, c'est une vraie question. Parce que c'est vrai que c'est très bien d'éduquer les jeunes et le plus tôt possible. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un problème générationnel qui se pose sur l'usage du numérique. Ça, c'est évident, en fait. C'est que ces technologies-là, elles sont arrivées encore récemment dans nos vies, on grandit avec elles et elles se développent avec nous et avec nos usages. Et en fait, les personnes âgées qui découvrent à 65 ans passés en fait, le monde de l'Internet, évidemment, sont des cibles potentielles encore plus faciles puisque elles vont avoir des temps de réaction par rapport à ce qu'on va leur expliquer et la façon dont on utilise ces outils-là qui vont être un tout petit peu toujours en retrait et en réaction plutôt qu'en étant proactif pour les usages. Et en fait, évidemment, il va y avoir aussi sur cette génération-là qui découvre le numérique beaucoup plus tard, une sensibilisation, mais adaptée. C'est-à-dire aussi, ils n'utilisent pas les mêmes outils informatiques que les jeunes. Très clairement, une personne âgée qui découvre le monde digital de l'Internet et des applications à 70 ans, elle a besoin de quoi ? Peut-être d'une boîte email, comme on disait au tout début, parce que ses petits-enfants vont lui envoyer une fois tous les 6 mois les résultats. Oui, j'ai eu mon diplôme et je suis trop content. Et voilà. Donc peut-être elle aura envie d'ouvrir sa boîte internet parce qu'elle a envie d'avoir des nouvelles de ses petits-enfants à l'autre bout du monde qui ont réussi leur diplôme d'Erasmus. Voilà. Mais ça peut être en fait aussi parce qu'elles ont besoin d'accéder à des aides sociales, à des aides médicales et qu'en fait en l'espace de 10 années, tous ces supports-là ont basculé sur le monde numérique et qu'elles sont absolument obligées d'avoir leur profil créé dans la plateforme pour pouvoir faire une demande ou pour pouvoir télécharger le document qui donnera le remboursement de du soin à domicile, etc. Et ben c'est très compliqué. Et effectivement, là-dessus, je dirais qu'il y a certaines, je sais d'expérience, il y a par exemple des médiathèques qui ont ouvert des espaces numériques, puisqu'en fait la numérisation de tout un tas de livres ou de documentations ont été basculées dans les dernières années sur des plateformes numériques. Les médiathèques sont très bien outillées pour apporter auprès des personnes âgées qui, elles, viennent quand même une fois par mois à la médiathèque bibliothèque pour chercher le livre qu'elles ont toujours eu l'habitude de venir chercher, et d'avoir un ou deux ou trois ordinateurs connectés à Internet de façon à peu près basique, mais qui donne accès à tous les services, et d'avoir la possibilité d'avoir un mentorat avec une personne qui est là, peut-être 4 après-midi à disposition, et qui va aider la personne pas du tout habituée à enregistrer le bon numéro pour rentrer son profil dans la bonne plateforme, et bien de le faire de façon accompagnée. Ça, je pense, c'est la vraie bonne idée pour les personnes âgées qui ont découvert le numérique beaucoup trop tard pour en être familiers, mais qui en ont besoin dans leur vie quotidienne.
Élise, on fait une nouvelle courte pause musicale. On vient d'aborder la dimension très concrète pour les citoyens selon les tranches d'âge, la protection des données, les bons réflexes face aux messages suspects ou encore le rôle du RGPD que l'on connaît tous. Après cette pause, on élargira pour terminer la perspective aux entreprises, aux collectivités et à la coopération entre États membres. Mais avant ça, on écoute Voyou, Seul, et on se retrouve juste après.
Y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser, pas la peine de me dicter comment faire et quoi penser. Je m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne, à faire des quand j'entends le genre d'idée qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y'a des choses qu'on accepte tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête et des envies d'exploser. Qu'on m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne, je ferai mes vagues loin de leur marée. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour l'heure en moi, ça bouillonne, j'ai la soupape qui déconne, j'ai les humeurs changeantes, la gorge en pente et les jambes en coton.
Merci d'être resté avec nous. On est de nouveau dans Instant Europe. Juste avant la pause, nous parlions des réflexes à adopter en tant que citoyen, du RGPD et de la manière dont l'Europe protège nos données au quotidien. Nous poursuivons maintenant cet échange avec Élise Savourin, intervenante Team Europe Direct, qui nous aide aujourd'hui donc à apprendre comment ces questions s'inscrivent dans les politiques européennes. Dans la dernière partie de cette émission, nous allons un peu peut-être élargir la perspective, comment les entreprises, les collectivités et les États membres coopèrent face aux cybermenaces et à quoi pourrait ressembler la cybersécurité européenne dans les années à venir. Élise, on sait que les petites entreprises et les mairies sont les plus vulnérables. Pourquoi ?
Oui, justement par leur taille qui est un petit peu... à mi-chemin entre une énorme entreprise, typiquement quand on discutait tout à l'heure sur des data très sensibles, quand on est dans des entreprises qui travaillent sur la technologie, l'innovation, etc. Elles sont évidemment surprotégées puisqu'elles-mêmes sont conscientes du degré en fait, qui pèse sur ces data potentielles. Et puis au niveau individuel, nous en tant que citoyens, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais en fait, effectivement, il y a cet échelon médian et qui est beaucoup plus fragile parce qu'en fait, c'est à la fois du collectif, mais c'est aussi de l'administration ou du commerce ou de l'entreprise, mais à une échelle qui n'est pas complètement celle d'une grande société qui a tous les moyens en fait, financiers hein, aussi, pour se protéger. C'est-à-dire qu'investir dans la cybersécurité, ce n'est pas gratuit. Investir dans la cybersécurité, c'est effectivement un coût pour une entreprise qui doit investir, qui doit renouveler à chaque fois ses certifications, qui doit être à jour de tous les logiciels de protection qui, en fait, se renouvellent, comme on le sait tous, au niveau individuel, presque chaque année. Donc, en fait, effectivement, c'est un investissement dans un budget qui pèse énormément. Et les collectivités territoriales, notamment des petites mairies dans des communes où les budgets sont quand même pas exponentiels, où les ressources issues des taxes locales ne font pas forcément un budget qui permet chaque année de sortir le renouvellement de toute la sécurité des ordinateurs. Ben oui, au final, ça s'accumule et en fait, eh bien, on fait apparaître des failles avec le temps, parce qu'on ne met pas à jour de façon automatique et facilement. Donc oui, les mairies, je dirais effectivement. L'Union européenne, néanmoins, est très consciente de la variété des situations dans ces territoires et dans les pays européens. Il y a en fait des programmes qui sont très, très forts côté Union européenne pour soutenir ce qu'on appelle la politique de cohésion de l'Union européenne. La cohesion policy, c'est en fait au sein de la Commission européenne, il y a un commissaire européen en charge de cette stratégie qui est en fait de garder une cohésion entre tous les États membres, mais pas uniquement à l'échelle État à État, mais en fait réellement de territoire à territoire. C'est-à-dire aussi toujours garder en tête que parfois les connexions se font de façon frontalière. Donc en fait, cette cohesion policy, elle travaille sur l'intégration européenne, l'intégration à l'intérieur des États membres. Et effectivement, à travers ces programmes-là, on s'aperçoit que des petits territoires ruraux sont plus vulnérables, plus enclavés, moins bien reliés et moins bien connectés. Il y a évidemment, on en parlait tout à l'heure sur l'Internet, mais il y a évidemment des enjeux aussi pour l'Union européenne de connectivité, de ne pas laisser tout un pan entier de la population européenne déconnecté juste parce que en fait la 5G n'arrive pas et que donc on laisse à côté tout un tas de services digitaux inaccessibles. Et donc, à travers cette politique de cohésion des territoires européens, qui travaille notamment vers les collectivités territoriales qui sont les mieux à même, en fait, d'aller au local, eh bien, évidemment, il y a un aspect cybersécurité qui va en découler. Bien sûr, il y aura des subventions européennes, comme toute infrastructure, on sait tous, typiquement, un pont, une route, telle construction en infrastructure solide, on voit tous qu'il y a un logo Union européenne qui dit ce pont a été construit avec le financement FEDER, etc., les programmes européens dans ce domaine-là. Mais on peut imaginer, les infrastructures, c'est aussi les infrastructures numériques. Donc évidemment, depuis 10 ans, l'Union européenne a été dans ce sens-là. Et quand elle soutient à travers telle subvention une collectivité territoriale, il y aura toujours une activité, deux activités du programme Union européenne qui sera ciblée vers la cybersécurité en accompagnement.
Élise, est-ce qu'on peut imaginer une défense numérique européenne comme il existe une défense militaire commune ? Est-ce que c'est envisageable ?
Oui, alors j'ai envie de dire oui parce qu'en fait tout dépend de ce qu'on met dans le mot commun. Et c'est tout l'enjeu du projet européen en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait nous ensemble à 27 et alors, j'aurais tendance à dire oui si on remplace le mot « commun » par un mot encore plus peut-être illustratif et parlant, « solidarité ». Si on parle de solidarité européenne, alors oui, bien sûr, nous avons une solidarité européenne dans le domaine de la défense. On en est tous évidemment conscients aujourd'hui, depuis 2022, de voir ce qui se passe à notre frontière Est en tant qu'Européens vis-à-vis ce qui se déroule sur le sol ukrainien, qui est effectivement à la porte de l'Union européenne. On est tous conscients qu'on a depuis presque 4 ans une solidarité européenne en matière de défense. C'est beaucoup plus peut-être difficile à entendre quand on dit on a une défense commune. Mais en fait, il suffit de savoir de quoi on parle derrière ce mot-là. Donc j'aurais tendance à dire oui, bien sûr, on peut aussi avoir une politique commune en matière de cybersécurité si on se dit exactement dans l'idée du mandat de l'ENISA, c'est-à-dire commune. Oui, on crée des mécanismes de coordination et l'État membre, le pays européen qui est le mieux placé pour y répondre, pour gérer telle crise contre une cyberattaque, celui qui est en lead sur le sujet, eh bien, il va y aller en premier et il va entraîner peut-être 2-3 autres. Et en fait, c'est une solidarité pragmatique.
Pour terminer, si on se projette un petit peu dans l'avenir, dans 10 ans, pourquoi pas, quelles seront peut-être les nouvelles formes de cybermenaces qui nous attendent ? Est-ce qu'on peut les anticiper ?
Alors, certainement, on peut les anticiper. Je suis même certaine qu'il y a beaucoup de monde qui travaille aujourd'hui à anticiper tout ça. Voilà, la prospective et l'innovation, ça fait partie, en fait, du métier de l'espace cyber. C'est inhérent, en fait, aussi à ce domaine-là. C'est comme ça qu'on développe des nouveaux outils. Donc, je suis certaine qu'au moment où on parle, il y a des personnes qui anticipent ce qui se passera dans 10 ans. Et si on y réfléchit bien, il y a aussi... Je l'ai un petit peu évoqué en filigrane, mais ce n'était pas le sujet principal aujourd'hui, mais cette idée de compétitivité. En fait, l'Union européenne, pourquoi elle s'intéresse au cyber aussi ? C'est quand même parce qu'il y a des opportunités gigantesques d'employabilité, de développement d'économie à l'échelle locale, nationale et européenne, et d'être compétitif sur la scène internationale. C'est ça ce qui se joue aussi avec ce domaine-là. Donc bien sûr, l'Union européenne veut savoir comment répondre dans 10 ans à ce qui va être développé par nos grands compétiteurs qui sont les États-Unis et la Chine, effectivement, dans ce domaine.
On arrive au bout de cet échange. Merci Élise Sabourin pour cet entretien et pour vos éclairages sur la manière dont l'Union européenne structure la protection numérique de ses citoyens. Ce qu'on peut peut-être en retenir, c'est que la cybersécurité n'est plus un sujet technique isolé, c'est une politique publique européenne accompagnée d'outils concrets, de normes communes et d'actions de sensibilisation qui concernent directement nos usages quotidiens. Alors pour prolonger ces échanges, la Maison de l'Europe en Mayenne met à disposition, j'imagine, des ressources et des informations complémentaires. Il ne faut pas hésiter à aller prendre des informations. Merci à vous pour votre écoute. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission Instant Europe en 2026, je crois, en rappelant que l'ensemble des émissions Instant Europe sont disponibles en podcast sur l'autreradio.fr. Merci à tous et à bientôt.
Reconnu centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.